voici un premier journal avec Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le navire humanitaire Open Arms va finalement pouvoir entrer en Italie. La justice a contraint Matteo Salvini à céder. Le ministre italien de l'Intérieur, qui pourrait toutefois saisir le Conseil d'État. En attendant, les quelques 150 migrants vont pouvoir accoster à Lampedusa.
Aux États-Unis, une plainte est déposée contre les héritiers de Jeffrey Epstein, mais aussi contre son amie Ghislaine Maxwell. Une jeune femme de 32 ans affirme avoir été violée par le financier américain alors qu'elle avait seulement 14 ans.
En France, on commémore aujourd'hui les 75 ans du débarquement en Provence. Opération menée par les forces américaines et les troupes françaises composées de soldats d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Une cérémonie a lieu ce matin en présence d'Emmanuel Macron et des chefs d'État ivoiriens et guinéens, Alassane Ouattara et Alpha Condé. La justice a donc forcé le bras de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien qui refuse de laisser entrer le navire humanitaire Open Arms dans ses eaux territoriales. Le décret est finalement suspendu par la justice italienne. Les 147 migrants à bord vont pouvoir se diriger vers l'île de Lampedusa. Il faut dire, Marie Duhamel, que le navire est bloqué depuis près de deux semaines, perturbé par des conditions météo souvent compliquées et d'hygiène relativement précaire.
Ce qui a poussé la justice à agir, l'état de stress, de fatigue des migrants de plus en plus tendus en raison de la promiscuité à bord, de l'incertitude et des conditions extrêmes de navigation de ces derniers jours. Saisi par l'ONG espagnole affrétant l'Open Arms, un tribunal administratif a donc suspendu le décret sécuritaire de Matteo Salvini, voté il y a tout juste 10 jours. Le bateau humanitaire ne sera pas confisqué donc, bien qu'il soit entré dans les eaux italiennes sans le consentement personnel du ministre de l'Intérieur.
Non mais songez à ce pays bizarre dans lequel nous vivons, dit Matteo Salvini, où un avocat du tribunal administratif du Latium veut faire débarquer en Italie un navire étranger chargé de migrants étrangers. Le chef de la Ligue et ministre de l'Intérieur promet de s'opposer au débarquement pour ne pas être complice, dit-il, des passeurs. Il a promis hier soir de saisir le Conseil d'État. C'est un double bras de fer qui s'engage aujourd'hui pour Matteo Salvini, avec la justice, mais également avec le Premier ministre qu'il tente actuellement de renverser. Giuseppe Conte a ordonné à deux navires militaires d'escorter l'Open Arms jusque Lampedusa et d'assurer dans un premier temps le transfert à leur bord des 32 mineurs se trouvant sur le navire humanitaire.
Précision de Marie Duhamel, le devenir de l'autre navire actuellement en Méditerranée avec plusieurs centaines de migrants à son bord, l'Ocean Viking, n'est lui toujours pas réglé. L'Italie, mais aussi l'Espagne qui envoie des avions en Grèce pour lutter contre les incendies. Le feu ravage toujours l'île d'Eubée au nord d'Athènes. 3 avions de la réserve européenne de protection civile sont mobilisés pour la première fois de l'été pour lutter contre ces violents incendies. Les habitants de l'île sont évacués. Il s'agit d'une énorme catastrophe écologique, déplore le gouverneur local Kostas Bakoyanis. Aux États-Unis, la mort de Jeffrey Epstein a paradoxalement donné un coup d'accélérateur à l'enquête et aux révélations. Hier, une jeune femme de 32 ans a déposé plainte contre les héritiers du financier américain qui s'est suicidé en prison en fin de semaine dernière. Elle affirme avoir été violée par Jeffrey Epstein alors qu'elle avait 14 ans. Et c'est l'amie du milliardaire, la franco-britannique Ghislaine Maxwell, qui aurait recruté la jeune fille, Grégory Phillips.
Jennifer Arrows a 14 ans quand elle croise pour la première fois Ghislaine Maxwell, qui l'aborde à la sortie de son lycée de Manhattan. La femme, plus âgée, lui propose de rencontrer Jeffrey Epstein. La plaignante raconte sur NBC. Elle m'a dit « c'est un gars formidable, il m'a aidé car j'ai dû me battre dans la vie. Alors j'ai eu l'impression d'être un peu comme elle. » La journaliste demande « c'était elle qui recrutait ?» Réponse « j'en suis certaine, à 100%. » Jennifer Arrows affirme qu'à partir de 2001, elle se rend chez Epstein environ une fois par semaine et qu'on lui donne $300 en liquide à chaque visite jusqu'à ce jour où le financier la viole. Là, il me dit « enlève tes sous-vêtements et viens sur moi, je ne voulais pas ». Il m'a forcé à m'allonger sur la table de massage. J'avais très peur, je lui disais d'arrêter, mais il n'arrêtait pas. Si je n'avais pas eu si peur de parler à l'époque, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça à d'autres filles. Jennifer Arrows porte plainte aujourd'hui, profitant d'une nouvelle loi dans l'État de New York qui, pendant un an, annule la prescription en matière d'agression sexuelle. Ghislaine Maxwell, elle, qui normalement vit entre Londres et les États-Unis, est pour l'instant introuvable.
Grégory Phillips. De son côté, Donald Trump tente de s'immiscer dans la crise entre la Chine et Hong Kong. Le président américain suggère une rencontre mercredi avec Xi Jinping pour évoquer ces troubles qui durent depuis plus de 2 mois. Je n'ai aucun doute sur le fait que le président Xi veuille résoudre avec humanité le problème à Hong Kong. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump cette nuit sur Twitter. Les États-Unis qui célèbrent aujourd'hui les 50 ans d'un festival qui a changé la face du rock.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you
Woodstock et ses 295 chansons jouées en 3 jours, même sous la pluie, dont celle-ci de Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Festival devenu légendaire au fil des années. On retournera sur place tout à l'heure dans le journal de 8h avec un Français qui a participé aux 3 jours de concert. Il avait 22 ans à l'époque.
Il en a 72 aujourd'hui.
En France, ce sont les 75 ans du débarquement en Provence que l'on commémore aujourd'hui.
Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, les armées américaines et françaises débarquent sur les plages du Var. 450 000 personnes au total dans cette opération baptisée Anvil Dragoon. Et plus de la moitié de ces soldats étaient originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. La mémoire de ces combattants des anciennes colonies françaises sera saluée ce matin par le chef de l'État Emmanuel Macron et les présidents ivoiriens et guinéens à la Alassane Ouattara et Alpha Condé. Au cours de cette cérémonie, l'écrivain David Diop lira un texte pour rappeler le rôle crucial de ces soldats parfois oubliés.
Cette mémoire collective, je dirais même cet imaginaire collectif de la présence du tirailleur sénégalais ou des troupes coloniales dans la libération de la France s'est progressivement estompé. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de marquer le coup, d'insister sur justement la diversité de toutes ces troupes qui arrivaient en France pour libérer la France. Je crois que je vais actualiser en fait l'apport, le sang, le sacrifice pour que les Français et les Françaises d'aujourd'hui comprennent bien que leurs voisins ou ceux qui vivent ici ne sont pas nécessairement les descendants de ces gens-là qui sont venus sauver la France, mais qu'ils portent le même nom. Et ça, peut-être que ça peut aider à faire comprendre beaucoup de choses et peut-être faire reculer certains discours haineux ou racistes.
L'écrivain David Diop, auteur de « Frères d'âmes », prix Goncourt des lycéens 2018, il répondait à Jacqueline Pétrose. Une nouvelle plainte contre des policiers de Seine-Saint-Denis. Le jeune homme interpellé vendredi à Saint-Ouen et dont la vidéo a circulé en masse sur les réseaux sociaux a déposé plainte pour acte de torture par les forces de l'ordre. Il dénonce la violence de son interpellation ainsi que l'usage d'un taser sur ses parties génitales lors de son transfert en voiture au commissariat. Une avancée dans la détection des nouveau-nés qui risque d'être victime de la mort subite du nourrisson. C'est la première cause de mortalité infantile en France. 300 à 400 bébés par an meurent de cette façon. Un chiffre qui ne baisse plus depuis de nombreuses années. Des chercheurs de l'hôpital de Strasbourg attirent l'attention sur l'hyperactivité vagale qui cause des malaises, une pathologie plus fréquente encore chez le nourrisson. Il faut vérifier cela au niveau cardiaque, Cédric Hermel.
C'est dans le cœur que tout se joue ici. Des récepteurs influent sur le rythme cardiaque. Certains l'accélèrent, d'autres le ralentissent. Ce sont les récepteurs muscariniques. Lorsqu'ils sont en trop grand nombre, ça provoque un malaise vagal, puis la mort. Un problème plus fréquent chez le nourrisson que chez l'adulte, explique Angelo Livolsi, pédiatre au CHU de Strasbourg.
Lorsque vous avez un stress, vous avez le cœur qui va se ralentir et vous avez des mécanismes compensateurs ne fonctionnent pas bien. Et dont l'un des mécanismes que nous avons vu, c'est l'enzyme qui régule ce récepteur qui n'arrive pas à augmenter. Vous avez un nombre de récepteurs qui est augmenté, mais l'enzyme n'arrive pas à augmenter de la même manière pour protéger.
Le test détecte le taux de ralentisseur du rythme cardiaque et se fait quelques jours après la naissance. Il n'est pratiqué actuellement qu'à l'hôpital de Strasbourg. Problème, il ne résout pas le problème de mort subite chez les nourrissons. Il ne fait que le détecter, mais c'est un pas vers un traitement selon plusieurs docteurs qui ont participé à l'étude. Un traitement qui durerait une année, celle après la naissance, lorsque le risque de décès est le plus élevé chez l'enfant. Mais les nourrissons restent bien mieux protégés qu'avant. Les cas de mort subite ont baissé de 75% depuis 1994. Avant l'élaboration d'un traitement, c'est possible, selon plusieurs médecins, maintenant qu'une des causes est connue.
Explication de Cédric Hermel. Cette étude est d'ailleurs à retrouver dans la revue Public Library of Science. Le temps de ce jeudi 15 août, il est variable sur le centre et le sud-ouest. De la pluie va balayer la quasi-totalité du pays, sauf la région PACA qui connaîtra une très belle journée. La tramontane, en revanche, se renforce avec des rafales à 70 km/h. Les minimales vont de 13 à 18 degrés du nord au sud, 20 degrés près de la Méditerranée. Les maximales entre 20 et 25 degrés au nord, de 29 à 34 degrés sur le sud-est et la Corse.